1999, des milieux extrêmes, continuez, c'est la règle de trois de Christian Clot. En 1999, Christian Clot a 27 ans, il a déjà beaucoup voyagé et il réalise un tour du Népal à pied. 2200 km en 5 mois, des régions les plus touristiques aux contrées les plus isolées. Cette aventure change le cours de son existence.
Au Népal, je découvre une forêt, je découvre plein de milieux que je ne connaissais pas forcément beaucoup. Donc l'envie de me dire, ben voilà, il y a des tas de choses nouvelles, des tas de choses qu'on ne connaît pas. Donc il faut que j'aille les découvrir.
Dès lors, il décide de consacrer pleinement sa vie à l'exploration. Il débute par une traversée de l'Amérique du Sud qui le mène du Venezuela au Cap Horn. Là, il entrevoit au loin une chaîne de montagnes, la cordillère Darwin. À partir de ce jour, il se spécialise dans les milieux extrêmes. Dans cette cordillère Darwin, la plus australe du Chili, à la cartographie inexistante, il affronte humidité, froid et vent violent. Personne n'avait exploré le cœur de cette région et Christian Clot y parvient.
Quand on est sur le terrain, qu'on a des vents de 200 km/h, que les crevasses s'ouvrent et se ferment dans une seule journée, il faut y aller avec beaucoup d'humilité.
En 2016, il monte un projet encore plus ambitieux. L'idée consiste à étudier ses capacités d'adaptation en effectuant 4 séjours dans des conditions extrêmes.
On va tous subir, pour diverses raisons, des crises et des changements. Et il faut mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre physiologie.
Il se rend en Patagonie où il tombe de son canoë dans une eau à 2 degrés, dans le désert iranien où il subit des températures allant jusqu'à 57 degrés, sans oublier l'Amazonie et son taux d'humidité de 100%, et enfin en Sibérie où le froid de moins 30 à moins 60 ne lui laisse aucun répit jusqu'à l'ultime étape.
Il n'y a pas un jour, je ne me suis pas dit, mais faut que ça s'arrête, c'est bientôt la fin, faut que ça s'arrête, c'est trop dur, c'était tellement dur que maintenant je suis super content d'être là.
En partenariat avec des chercheurs en sciences cognitives, des physiologistes, Christian Clot veut répondre à une question simple. Comment résister et continuer lorsqu'on subit un stress intense? Pour l'instant, il ne livre aucune conclusion définitive et souhaite monter d'autres expéditions avec un groupe de 20 personnes afin de poursuivre ses recherches. À titre personnel, il constate que deux sentiments se sont révélés d'excellents compagnons pour tenir, la peur et l'émerveillement.
Monsieur Clot, êtes-vous masochiste?
On pourrait le croire en voyant ça. Alors heureusement, entre ces moments très difficiles, il y a des tas de moments très agréables et très, très sympathiques quand même.
Vous n'êtes pas un survivaliste. Ça n'a rien
pas
à voir.
Tout.
Votre objet, c'est d'une part l'émerveillement devant les richesses de la planète, mais aussi une sorte d'auto-interrogation sur votre capacité à vous adapter à ces situations les plus extrêmes et les plus hostiles.
Oui, il y a vraiment cette interrogation de savoir comment on est capable de trouver des ressources, des solutions, non seulement pour résister au problème qui s'est passé, mais surtout pour influencer le futur par une modification de notre paradigme, notre manière d'observer et finalement d'agir dans le futur.
L'affaire Astérix, revenez sur cette situation dans laquelle vous étiez, qui était une situation de stress intense, peut-être même, vous disiez-vous, je pourrais mourir, il fait 60 degrés, l'air est totalement déshydraté. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce désert en Iran?
Alors, d'Ashtelout en Iran, il fait 60 degrés depuis plusieurs jours, je suis épuisé, je suis incapable de comprendre la différence entre le jour et la nuit, et je monte mon camp, et j'essaie de taper sur une sardine, et c'est
quoi,
quasiment pour planter la tente, pour maintenir la tente, et j'essaye, et je fais un coup toutes les minutes, à peu près.
Ah ouais.
Et là, je m'effondre et je revois cette image de Astérix, le bouclier Averne, où on a un soldat qui balaye la cour et son centurion qui lui dit « Mais vous n'avez pas avancé ?» Et le soldat répond « Oui, mais je balaye la première demi-marche de la première marche, puis je me repose un petit peu. Puis après, je balaye la deuxième demi-marche de la première marche, puis je me repose un petit peu. » Et ça me fait éclater de rire. Et au moment où j'éclate de rire, je lève la tête et je vois le coucher de soleil devant moi. Et en fait, ça me redonne une énergie extraordinaire. Et ce moment de plaisir, ça a été un marqueur pour moi pour dire comment est-ce qu'on utilise le plaisir aujourd'hui pour arriver à dépasser une situation.
C'est ça, émerveillement pour arriver à dépasser la peur notamment et se projeter dans le futur. Anne.
Oui, expliquez-nous quel parallèle vous faites pour considérer le confinement comme une aventure de l'express, comme on en a vu, de l'extrême, excusez-moi, l'express c'est autre chose, comme on a vu dans votre sujet. Quelle est la comparaison?
La comparaison est très simple. Nous, on travaille sur la condition extrême. Or, l'extrême, c'est un moment où un humain se trouve dépassé par rapport à sa propre capacité initiale. Donc, le confinement, c'est un extrême. Ça a été un extrême pour beaucoup de Françaises et de Français. Beaucoup de personnes qui ont soudainement été plongées dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'imaginaient pas. Donc, le processus de devoir trouver des solutions par rapport à ça, de devoir mettre en place des fonctions qui permettent de se stabiliser, puis éventuellement ensuite de commencer à faire l'influence, à avoir cette influence sur le futur par des changements d'action, des apprentissages autres, c'est exactement pareil qu'on a dans un milieu extrême classique. Nous, on se sert des extrêmes, non pas parce que c'est sympa le plus 60 degrés, mais parce que c'est des accélérateurs de situation.
Nadia, on va évoquer avec vous une situation liée au déconfinement, phase 2, comme on dit, réouverture, des écoles, encore plus.
Oui, des écoles, des collèges et des lycées. On n'est pas encore à 100%, loin de là. Même, effectivement, c'est toujours sur la base du volontariat et avec un nombre limité d'élèves. C'est ce qu'on pourrait appeler un retour progressif, mais qui va peut-être permettre de mesurer les effets du déconfinement sur les enfants. Il y a assez peu eu de sondages, d'enquêtes sur la façon dont les enfants ont vécu à la fois le confinement et le déconfinement. Pour Richard Delorme, il est chef de service de pédopsychiatrie à Robert Debré, les enfants, ce sont français en particulier, ce sont les grands oubliés de la crise. Il a observé ce qu'il appelle un stress chronique chez les enfants. Ils ont manifesté des troubles anxieux, des troubles alimentaires, des troubles dépressifs. Et d'après lui, un tiers des enfants entre 4 et 15 ans ne vont pas bien aujourd'hui. Et lui, il préconise un retour à l'école, un retour généralisé à l'école pour les aider à aller mieux. Vous vous dites que l'école, c'est très important. Ça devrait aider à préparer les enfants, ce que vous appelez la versatilité des situations. Oui. Comment est-ce qu'elle ferait concrètement l'école française pour apprendre aux enfants cette adaptation ?
Aujourd'hui, il y a deux choses qui manquent à l'école française, et pas forcément à cause des professeurs ou des enseignants, mais par son programme. On enseigne très peu la prise de parole, tout d'abord. On est plutôt sur la mémoire plutôt que sur l'anticipation. Donc il faudrait déjà plonger les étudiants et les élèves dans des situations un peu nouvelles, des choses qui les questionnent.
Dans la pédagogie traditionnelle de l'école française.
Il faut revivre les émotions. Or, on manque d'émotions. Toutes décisions qu'on prend dans la vie sont prises sur la base de nos émotions, de nos ressentis, de notre sensorialité. Or ça, c'est des choses qui sont assez absentes de l'école aujourd'hui. Puis la deuxième chose qu'on peut faire, c'est travailler sur des notions d'improvisation. Alors pas forcément une improvisation théâtrale, comme on voit un peu partout, et qui est très très bien, ça peut être une solution, mais des situations, on les plonge dans une situation, on leur dit, voilà, cherche des idées, cherche des solutions, et va chercher par toi-même des choses nouvelles, et surtout fais-le en groupe. Et ce côté du groupe, si vous me proposez quelque chose, je ne dois pas dire non. Je dois essayer de repartir dessus et de construire. Et cette co-construction d'une situation qu'on n'avait pas initialement est très formatrice.
La co-construction, ça signifie le collectif. Le confinement, ça a été une expérience souvent très solitaire.
Absolument.
Et d'où sans doute la difficulté de se projeter dans le futur. Vous avez mené une étude, CovAdapt, c'est ça ? Vous aviez quoi, une dizaine de milliers de cobayes, enfin volontaires, qui vous répercutaient semaine après semaine ce qu'ils ressentaient. Qu'est-ce qui ressort ? La difficulté pour les hommes et les femmes qui ont répondu à votre étude de se projeter dans un futur très anxiogène qui leur fait peur, c'est ça ?
Il ressort deux choses très importantes. La première, c'est qu'on est très résilient. Et ça, on a beaucoup travaillé en France sur la résilience. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui se passe, on est très réactif à réagir à lui. D'ailleurs, ça s'est bien passé. Quand le confinement arrive, il n'y a pas de drame. Les gens se plongent dedans, apprennent le télétravail. Ça va assez vite. En fait, d'ailleurs, 91% des personnes déclarent ne pas avoir de problème avec le confinement initial. Là, on est un peu moins fort. C'est dans cette capacité de faire quelque chose de ça et de le projeter vers le futur. Et là, on voit bien que si 95% des Françaises et des Français déclarent « je veux voir un futur différent, j'aimerais qu'il change », on a seulement 20% de ces mêmes personnes qui ont commencé à initier une opération de changer quelque chose dans leur propre vie pour faire évoluer.
Notamment sur l'aspect écologique, sur ce qu'on peut changer soi-même.
Il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect social aussi. Absolument, il y a tous ces aspects que les gens chérissent, ont envie de voir se transformer, à savoir non seulement les inégalités sociales, l'écologie. Toutes ces choses-là sont des choses importantes, mais on pense toujours un peu trop, et ça c'est intéressant, qu'à 85%, les gens pensent que moi j'agis bien. Ouais. Par contre, les autres n'agissent pas bien. Donc il va falloir changer un peu ces paradigmes, mais amener les gens à comprendre qu'ils doivent eux-mêmes s'engager, prendre une responsabilité dans ce futur.
Pour les gens qui veulent se pencher sur votre étude, c'est CovAdapt et je suppose qu'on la trouve sur Internet.
Absolument.
Et je précise que vous cherchez des cobayes pour repartir, faire 4 expéditions dans des situations et des lieux extrêmes.
On en a pas mal des cobayes déjà, mais c'est une autre histoire.
Au cas où vous seriez intéressé, 60 degrés, enfin bref, des situations délicieuses à vivre au quotidien.
Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose ? On a, pour les personnes qui éprouvent des difficultés, notamment les enfants, les adultes, on a une application qui s'appelle covidout.fr.
Très bien.
Dans
lesquelles
il y a
bon
plein
français.
De conseils, plein de propositions. Il y a des spécialistes qui donnent des vidéos. Permettre tout simplement de trouver des réponses à des problèmes.
Merci.